Voilà, donc vous savez que depuis un an, ça va se terminer pour l'Immaculée Conception. Nous sommes dans l'année de la miséricorde. C'est quand même un truc qui obsède les papes, et à commencer par Jean-Paul II. Et tout ça provient de Sœur Faustine, dont je vous parlerai, avant la guerre de 40 en Pologne. Il est manifeste que nous arrivons vers la fin des temps, bien plus qu'il y a 50 ans par exemple, et que il y a une urgence. Dieu veut nous récupérer, quoi. Il ne veut pas que nous partions dans les décors. Et donc il se manifeste essentiellement en ces temps qui sont les derniers, par sa mère, la Vierge Marie, et donc aussi par son fils. Vous verrez, je vous parlerai des apparitions de la Vierge reconnues officiellement par l'Église de ces derniers temps, jusque dans les années 80, en Argentine, dans les années 70 au Japon, où vraiment la Vierge insiste sur le fait qu'on arrive vers la fin des temps. Je ne peux pas vous dire si c'est pour demain ou pour dans 50 ans ou 100 ans. Mais on arrive vraiment à la fin, et donc toute cette insistance, et je vous dis surtout à partir des années 30, avec Sœur Faustine. Et voilà pourquoi, entre autres, le pape Jean-Paul II a institué le dimanche de la miséricorde, le premier dimanche après la fête de Pâques. On a un dimanche uniquement de la miséricorde. Alors là, je vous lis pour commencer la bulle du pape François. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun. Lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie, la miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché. Voilà ce que dit le pape. Déjà, rien que ce petit passage, on voit plusieurs choses. Donc la miséricorde, c'est ce qui révèle Dieu dans sa profondeur même. La miséricorde, c'est ce qui devrait habiter notre cœur, c'est ce qui devrait diriger notre vie dans nos rapports avec nos frères, et c'est de cette façon que Dieu nous prend, par la miséricorde, il est miséricordieux, malgré nos limites. Et cela, donc il le dit lui-même, le pape, soyons joyeux, nous vivons dans l'espérance, puisque le Seigneur est venu pour nous. Cela va nous introduire aussi dans le mystère du péché. Dès le livre de la Genèse, vous savez, il y a deux récits dans la Genèse. Il y a l'histoire de la création en 7 jours, premier récit, et puis l'autre histoire qui ressemble pas beaucoup à la première, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Entre parenthèses, les deux histoires ont été retenues. C'est des façons d'exprimer le mystère de l'homme et le mystère de Dieu. Ont été retenus malgré certaines choses qui ne semblent pas spécialement en concordance, déjà par les Juifs, parce que le canon des Écritures a été établi 5 siècles avant Jésus-Christ. Vous savez que les Juifs ont été déportés à Babylone, avec donc du temps de Nabucodonosor, et qu'ensuite ils sont revenus, d'où on a reconstruit le temple, et on a établi le canon des Écritures. Et donc ils ont retenu ces deux Écritures parce qu'elles leur semblaient importantes. Je veux dire qu'elles ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Le Seigneur n'a pas fait ça en une semaine. Ça veut dire que tout est pris dans un temps liturgique. Mais je ne veux pas insister là-dessus. Mais il est dit que nous sommes image et ressemblance de Dieu. Genèse 1, 26. Et, deuxième récit de la Genèse, donc histoire d'Adam et Ève, nous avons perdu cette image et cette ressemblance, en quelque sorte, en écoutant la voix du serpent, la voix du prince des ténèbres. Et Dieu ne peut pas supporter que nous nous perdions. Et donc cette voix du démon, du prince des ténèbres, est extrêmement séduisante. C'est un séducteur. Et tout le monde tombe dans le péché, des péchés plus ou moins graves. Mais comme il est dit dans un psaume, qui regarde vers lui, psaume 33, verset 6, qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Et donc la miséricorde, déjà dès le départ, est une invitation à regarder vers Dieu qui nous aime. Et le pape poursuit, Jésus a établi la miséricorde comme idéal de vie et comme critère de crédibilité de notre foi. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Vous savez, c'est le fameux passage de béatitude dans Matthieu, chapitre 5. C'est la béatitude qui doit susciter notre engagement tout particulier en cette année sainte. L'étymologie du mot miséricorde, l'étymologie facile, qui tombe pratiquement sous le sens en français, miséricorde, il y a misère et cœur dedans. Donc c'est un cœur qui voit notre misère et qui prend notre misère. C'est cela la miséricorde. Et nous saisissons déjà d'entrée que si on ne veut pas qu'on prenne notre misère, eh bien Dieu nous laissera avec notre misère. Mais si nous voulons qu'il prenne notre misère, à ce moment-là, il la prendra. Le mot est encore plus fort en hébreu, parce que le mot en hébreu, c'est le même que les entrailles de la femme. En hébreu, ça se dit rahamim, ce qui signifie que, hein, que le fruit des entrailles d'une femme, voilà, c'est mon gamin, je l'ai eu 9 mois dans le ventre, nous les hommes, on ne peut pas savoir ce que c'est. Enfin, vraiment, j'ai senti la vie croître en moi, etc. Donc, même si un enfant fait des bêtises, c'est son enfant, on est prêt à tout pardonner, etc. À redresser l'enfant pour... voilà. Et alors, Dieu a des entrailles, et on pourrait dire, c'est infiniment plus que les entrailles d'une femme. Il ne peut pas supporter, puisque c'est lui qui nous a voulu, qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, il ne peut pas supporter en lui-même que nous nous perdions. Et la plus grande preuve de cet amour viscéral, c'est qu'il a accepté de prendre notre condition humaine. La parole de Dieu a pris notre condition, elle s'est faite chair, c'est Jésus, pour, hein, comme dit saint Irénée, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, en fait qu'il redevienne comme Dieu, et qu'il retrouve cette image, cette ressemblance divine. C'est pas quelque chose qui touche spécialement la forme des pieds ou la longueur des jambes. C'est vraiment, nous avons une âme divine. L'intérieur de notre être est divin, ou l'était, et le retrouve, je vous disais ce matin, par le baptême. Mais voilà, ça va être tout le mystère d'accepter la grâce qui nous est accordée par les sacrements. Si nous ne l'accueillons pas, les sacrements ne servent à rien. Vous vous rappelez, j'avais dû vous citer ces paroles, « La conversion est plus grande que le baptême », disait un père ancien. Il faut accepter que cette miséricorde de Dieu qui vient nous chercher, qui prend notre condition, jusqu'à mourir sur une croix, il faut accepter de se laisser prendre par Jésus. Et à ce moment-là, comme dit saint Paul, « Revêtez-vous des sentiments du Christ », dans l'hymne aux Philippiens, eh bien, se revêtir des sentiments du Christ, ça veut dire avoir les mêmes mouvements progressivement dans notre existence que ceux du cœur de Jésus. Et donc, si Jésus est venu nous redonner la vie divine, expression de la miséricorde de Dieu, nous aussi, à notre tour, nous devons devenir miséricordieux, même avec cette saloperie de prochain. Nous voilà, donc, après cette introduction, je vais vous parler très brièvement de sœur Faustine. Alors vous connaissez tous l'icône de la miséricorde, hein, avec le Jésus en robe longue et qui a son doigt sur le cœur, il y a 2 rayons qui sortent de son cœur, l'un exprimant l'amour et la pureté, le blanc, et le rouge, le sang qui nous réhabilite. Hein, ce sang éternel et divin nous est donné pour que nous aussi nous ayons accès à la vie éternelle. Alors elle est née en 1905, et elle est morte en 1938. C'est rapide. Voilà, bon, mais il y a des itinéraires rapides, nous sommes familiarisés avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et donc, c'est une religieuse polonaise de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde, qui sont issues des Sœurs de la Miséricorde qui se trouvent à côté de Bordeaux, et qui justement ont fondé en Pologne. Et alors, donc, cette sœur qui a une situation très modeste dans sa congrégation, toujours comme ça, le Seigneur choisit toujours les plus petits, et Jésus dit à Faustine, proclame que la miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Toutes les œuvres de mes mains sont couronnées de miséricorde. Et donc la sainte Faustine va exprimer tout ça dans son petit journal où elle essaye de retranscrire les paroles que lui a dites Jésus. Jésus lui dit, le premier attribut que le Seigneur me fit connaître, c'est la sainteté. Cette sainteté est si grande que toutes les puissances et les forces tremblent devant lui. Les purs esprits voilent leur face et s'abîment dans une incessante adoration, la seule expression de la plus haute adoration est la sainteté de Dieu se répand sur l'Église et sur chaque âme vivant en elle à des degrés divers. Il y a des âmes toutes pénétrées de Dieu, il y en a qui en vivent à peine. La seconde connaissance que Dieu m'accorda, c'est sa justice. Sa justice est si grande et si pénétrante qu'elle atteint les choses dans leur essence et tout se présente à lui dans sa vérité, mise à nu, et rien ne pourrait lui résister. Attention, parce que quand nous entendons parler de justice, on pense à la justice des hommes et avec les sanctions qu'il va y avoir. Là, c'est justice dans le fait que Dieu est juste. Il ne peut pas supporter ce qui est injuste, donc le péché. Troisième attribut, c'est l'amour et la miséricorde. Et j'ai compris que l'amour et la miséricorde sont le plus grand attribut. Ils unissent la créature au Créateur. J'ai connu le suprême amour et l'abîme de sa miséricorde dans l'incarnation du Verbe, dans sa rédemption, et c'est ainsi que j'ai découvert que cet attribut est le plus grand en Dieu. Dieu a tout créé dans sa bonté. Vous vous rappelez le livre de la Genèse, premier jour, et Dieu vit que cela était bon. Tout est pris dans sa bonté. Et quand il crée l'homme, à son image et à sa ressemblance, on se répète Genèse 1, 26, il dit que cela était très bon. Et comme l'homme a la responsabilité de la création, ça dépasse largement les problèmes écologiques, eh bien, ça veut dire que lorsque l'homme, qui était image et ressemblance de Dieu, se sépare de cette image et cette ressemblance de Dieu, eh bien, à ce moment-là, ça va affecter toute la création. Et si vous prenez l'Épître aux Romains, Romains 8, 19, et la création gémit en attente de la révélation des fils de Dieu. Elle a été soumise à la corruption, non qu'elle l'ait voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc l'homme par l'intermédiaire des forces des ténèbres, par l'intermédiaire du serpent, donc de l'intermédiaire du démon. Évidemment, nous vivons l'histoire que nous pouvons décrypter dans la nature. C'est une histoire qui est empreinte de générations successives, de morts, de violences naturelles, etc. Mais ce n'était pas la création que Dieu avait projetée au départ. C'est une des conséquences, on pourrait dire, la violence de la création, qui n'est rien par rapport à la violence de l'homme, à partir de toutes les guerres, qui est une des conséquences du prince de la mort. Voilà, donc Dieu ne peut pas supporter la mort. C'est pas lui qui a créé la mort, et nous en faisons tous l'expérience un jour ou l'autre, et le Christ lui-même a accepté notre condition puisque lui-même a pris notre condition. Il a pris un corps identique au nôtre, un corps d'après la chute originelle. C'est pas le corps d'Adam avant la chute, c'est le corps d'Adam après la chute, et donc un corps qui est soumis comme le nôtre à la fatigue, au vieillissement, à la corruption et à la mort. Donc Dieu a fait aussi en son Fils Jésus-Christ l'expérience de la mort. de par cette incarnation, vous voyez, on voit la profondeur de cet amour viscéral de Dieu pour qu'il prenne la condition humaine. Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu, comme dit saint Irénée, la parole célébrissime de saint Irénée. Eh bien, il veut nous redonner cette condition divine. Vous avez les mots mêmes qui sont dits dans la deuxième lettre de Pierre. Il nous a fait participants de la nature divine. Il a aussi dans les pédés précédents, vous avez cité au Carmel, c'est célèbre chez nous, Jean de la Croix emploie souvent le mot, nous devenons Dieu par participation. Mais il l'a piqué chez saint Pierre. Donc on est participant de la nature divine. Vous voyez, c'est beaucoup plus qu'une vie réussie, ici-bas, puisque de toute façon ça ne va pas plus loin que le costume en sapin. C'est une vie qui est destinée à être participant donc de la nature divine. Dieu est notre Père. Si vous y pensez, c'est ce que nous... On récite le Notre Père comme ça, et si vous y réfléchissez, notre véritable Père, il y a une génétique chimique, matérielle par l'ADN, mais il y a une génétique spirituelle qui nous est redonnée par l'incarnation de la parole de Dieu, par Jésus-Christ. Et donc, Dieu, à ce moment-là, devient notre Père, notre véritable Père, pour quelque chose d'éternel, et Jésus est notre Frère. Nous sommes bien plus spirituellement de la famille de Dieu que nous ne sommes de notre famille suivant la chair, suivant la génétique. Ce Père, vous avez compris le mot hébreu, quoi, viscéralement, il ne peut pas supporter que ses enfants se perdent. Et voilà ce qui faisait dire à Benoît XVI que le nom même de Dieu était miséricorde. On pourrait dire que tout est pris dans la miséricorde de Dieu. Si vous y pensez, Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de la création. Pourquoi y a-t-il une création? C'est une miséricorde. Et pourquoi a-t-il voulu un être dans cette création? C'est une miséricorde. C'est parce que son cœur est débordant d'amour et qu'il a voulu qu'il y ait des créatures qui partagent sa propre vie. C'est un peu ce qui est dit de façon symbolique dans le premier récit de la création, où l'homme a en responsabilité cette création même, pour lui communiquer aussi la vie et la miséricorde de Dieu. Et quand l'homme chute, c'est pas l'homme qui fait le premier pas, vous vous souvenez de l'histoire d'Adam et Ève, c'est lui qui va vers l'homme et qui vient le chercher dans le jardin. Et donc là aussi, c'est œuvre de miséricorde de Dieu. Et puis l'homme et la femme sont mis hors du jardin, parce qu'ils sont dégradés où ils sont, vivre une vie éternelle, ça serait horrible. Oui, on est en croissance, on pourrait dire, de ses capacités de compréhension, de ses capacités physiques, jusque vers, l'âge de 35-40 ans, puis après ça va, en se dégradant progressivement, puis après en s'accélérant. Donc, on voit beaucoup de gens qui sont, ça suffit comme ça. Et bien, c'est pas ça la vraie vie. Donc là aussi, il est venu nous chercher, et ça, c'est la plus grande œuvre de sa miséricorde. C'est encore une œuvre, on pourrait dire, plus grande, la rédemption de l'homme par l'incarnation de la parole de Dieu, que ne l'est la création. Alors tout est plein de la miséricorde de Dieu. Tout est plein, l'univers entier, parce qu'il existe, parce que nous existons, parce qu'il est venu nous rechercher. Et vous voyez, nous avons la totale liberté soit d'accepter qu'il œuvre en nous, soit nous pouvons le refuser et nous éloigner de lui. Alors j'ai trouvé ces mots chez saint Bernard. Saint Bernard que nous fêtions, c'est samedi, c'est-à-dire hier, saint Bernard de Clairvaux, et donc les cisterciens, a de très belles paroles sur la miséricorde. Alors je vous lis celle-ci, je ne vais pas trop vous lire. C'est comme un couffin plein de sa miséricorde que Dieu le Père a envoyé sur la terre. Oui, dis-je, un couffin que la passion devra déchirer pour laisser se répandre ce qu'il contient, notre paix. Ce couffin peut être petit, mais rempli. Un petit enfant nous a été donné, mais en lui habite toute la plénitude de la divinité. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, est venue aussi la plénitude de la divinité. Elle est venue dans la chair, afin de se faire voir même de ceux qui sont charnels, et que son humanité, ainsi manifestée, permette de reconnaître sa bonté. En effet, dès que l'humanité de Dieu se fait connaître, sa bonté ne peut plus rester cachée. Et comment aurait-il pu davantage mettre en relief sa bonté qu'en revêtant ma chair ? Ma chair, dis-je, non celle d'Adam qui était la sienne avant la chute. Pourquoi déclare-t-il avec tant de soin sa miséricorde au point de faire sienne notre misère elle-même ? Pourquoi est-il rempli d'une bonté telle que la parole de Dieu pour nous s'est faite herbe fanée ? Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses un si grand cas ? Qu'est-il pour ton cœur, pour que ton cœur lui soit ouvert ? Voici où l'homme doit porter son attention pour découvrir quel souci Dieu prend de lui. Voici où l'homme doit apprendre quelles pensées et quels sentiments Dieu nourrit à son égard. N'interroge pas ce que tu souffres, toi, mais ce qu'il a souffert, lui. À ce qu'il est devenu pour toi, reconnais ta valeur à ses yeux, afin que sa bonté t'apparaisse à partir de son humanité. En effet, l'abaissement qu'il accomplit dans son humanité a révélé la grandeur même de sa bonté, et plus il s'est rendu méprisable en sa faveur, plus il me devient cher. Voici manifester la bonté de l'humanité de Dieu notre Sauveur. Oui, qu'elles sont grandes et évidentes, la bonté de Dieu et son humanité. Quelle grande preuve de sa bonté il nous a donnée en prenant tant de soins pour ajouter à l'humanité le nom de Dieu. Un autre aspect, vous l'avez compris, Dieu n'a pas besoin de créer l'univers, il n'avait pas besoin non plus de créer l'homme, mais il le fait, vous l'avez saisi, par sa plus grande bonté, sa miséricorde. Et donc, cette œuvre qui partait de travers par la faute de l'homme, il n'hésite pas à prendre la condition humaine et à mourir sur une croix. Donc, un autre aspect est celui-ci. C'est que l'univers en son entier, avec tout ce qu'il contient, toute la vie, repose sur un cœur. Et je cite toujours cet astronome cosmologiste anglais qui doit être mort maintenant depuis un bon bout de temps, et à qui on doit l'expression qui nous est devenue familière maintenant du Big Bang. Du grand boom. Voilà, c'est passé maintenant dans le patrimoine commun de l'humanité, c'est plus réservé à quelques-uns. Il avait dit ça par dérision parce que lui n'y croyait pas. Voilà, je ne vais pas faire un cours de cosmologie. C'est passionnant, quoi, cette histoire. Maintenant, on a tellement de preuves de cette explosion initiale. Alors, Fred Hoyle faisait, j'en reviens à Fred Hoyle puisque c'est le personnage, faisait une conférence en Australie, c'est un Anglais. Il avait été ennobli par la reine. Et après sa conférence sur l'astronomie passionnante, une dame vient le voir et lui dit « Oh, mais écoutez, c'est formidable ce que vous avez dit, mais je n'y crois pas une seconde. » Elle dit « Mais pourquoi ?»« Mais parce que l'univers repose sur une tortue. » Vous savez, des mythes océaniques, les grandes tortues marines. Ah, elle lui dit « Mais alors, et la tortue, sur quoi repose-t-elle » Elle dit « Sur une autre tortue. » Et la deuxième, sur une troisième. La troisième, sur une quatrième. Alors là, mine de rien, ça touche à un problème de philosophie qui a été résolu par les Grecs et entre autres par Aristote. Il faut bien qu'à un moment, ça s'arrête. Il y a bien une cause initiale, primaire et absolue. C'est ce qu'Aristote appelle un premier moteur immobile, qui est la cause de tout. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous pouvons dire que l'univers ne repose pas sur une tortue. Mais il repose, d'après ce que je vous ai dit là déjà, il repose, c'est une œuvre de miséricorde, ça repose sur un cœur. L'univers repose, et pris totalement dans le cœur de Dieu. Et cela nous introduit dans un autre aspect de la miséricorde, c'est celle du cœur. Et là, c'est en France que ça s'est passé, c'est avec Sainte Marguerite Marie à la Côte, celle qui pondait des œufs, qui maintenant porte son nom.
En conclusion,
alors, au XVIIe siècle, hein, à Paray-le-Monial, donc les sessions de Paray-le-Monial sont célèbres, alors elle a vécu un peu plus longtemps, 1647 à 1690, 53 ans, donc c'est une mystique de l'ordre de la Visitation, fondée par Sainte Jeanne de Chantal et Saint François de Sales. Là, c'est l'histoire du Sacré-Cœur. Hein, là, Jésus emploie des moyens pour nous faire comprendre. Et si vous prenez Sainte Faustine aussi, ses rayons sortent de son cœur. Alors évidemment, nous on est tellement aussi dans notre vision contemporaine, le cœur s'est réduit à un muscle cardiaque, avec ses trois tissus. On a perdu ce sens. On pourrait dire populaire, et c'est comme ça qu'a agi Jésus, quoi. Ce sens populaire, le cœur, c'est bien, quand on a des émotions, le cœur s'accélère, en d'autres circonstances, il se ralentit, enfin bon, docteur, on va parler de l'adrénaline et de l'acétylcholine, hein, d'une hernie pneumogastrique et du parasympathique. Mais donc, nous savons fort bien, par nos expériences quotidiennes, qu'on a une émotion, notre cœur s'accélère. Hein, quelqu'un qui est amoureux, le cœur va vite. Voilà. D'où le siège, le cœur est symboliquement le siège de l'amour. Et donc, on trouve ça déjà dans les évangiles. Si vous prenez la dernière scène, lors de la dernière scène, l'apôtre Saint Jean est penché sur la poitrine de Jésus et il entend battre le cœur de Jésus. Si vous prenez les pèlerins d'Emmaüs, Luc 24, 32, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures. Donc, ce cœur traduit beaucoup plus ça traduit vraiment nos émotions. C'est souvent ce que je dis aux gens, quand on reçoit des gens pour les accompagnements, ils partent dans des tas de raisonnements, et puis au bout d'un moment, on suit plus ou moins, je dis, je vais vous couper la tête. Si je vous coupe la tête, vous pourrez fonctionner avec le cœur. Et on pourrait dire que la vie spirituelle, en fait, dans sa profondeur, c'est un passage de la tête qui veut tout tenir au cœur, qui pour finir ne tient plus rien, mais s'abandonne à celui qui est un cœur lui-même. Voilà pourquoi, hein, le 27 décembre 1673, Jésus l'a fait reposer quelques heures sur sa poitrine, exactement comme Saint Jean, lors de la dernière scène. Et Jésus dit à Sainte Marguerite Marie, « Mon cœur divin est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes ardentes de sa charité, il faut qu'il les répande par tous les moyens, et par ton moyen, et qu'il se communique à eux pour les enrichir de ses précieux trésors. » N'allons pas chercher midi à 14h. Jésus nous aime. Il est la parole qui a pris notre condition. Il veut nous donner son cœur. Il y a aussi des saints chez lesquels il y a échange des cœurs. Et il l'a fait avec Sainte Marguerite Marie à la Côte. Il a échangé son cœur contre le sien. Vous voyez, ça aussi c'est symbolique. Pour nous donner un cœur qui soit dilaté aux dimensions de son amour. Prenez Sainte Gemma Galgani, ça lui a même fait péter les côtes de la cage thoracique. C'est pour comprendre, vous voyez, que il y a une ardeur amoureuse en Dieu, et que celui qui suit le Christ est pris aussi dans cette ardeur amoureuse, et que lui-même, à son tour, dans cette ardeur amoureuse, devient miséricordieux. Alors, Jésus aussi s'est plaint à Sainte Marguerite Marie en lui disant, et c'est vrai, nous le voyons nous-mêmes, chrétiens, avec un cœur qui ne bat peut-être pas au rythme que Jésus voudrait, on voit bien que le monde ne croit pas. Je ne reçois de la plus grande partie que des ingratitudes, déjà au XVIIe siècle, par les mépris, les irrévérences, les sacrilèges, les froideurs qu'ils ont pour moi dans ce sacrement de l'amour. Mais ce qui est encore plus rebutant, c'est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés et qui en usent ainsi.
Est-ce que vous connaissez le chapelet de la miséricorde?
Oui.
Bon. Je ne veux pas insister là maintenant, mais nous y reviendrons et nous le dirons.